Le journal vous est présenté par Frédéric Barrère. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition du 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dans l'actualité ce soir. Le nombre de patients Covid admis en réanimation continue d'augmenter. Le pic de la deuxième vague à l'automne est presque atteint. 41 médecins responsables des hôpitaux de la PHP alertent. Nous allons être contraints de faire le tri des patients à sauver. Dans les écoles, chaque jour davantage, le nombre de contaminations se multiplie. Les professeurs du lycée Eugène Delacroix à Drancy demandent la fermeture de l'établissement. 20 parents d'élèves sont morts depuis un an et le début de la pandémie. Reportage à Drancy dans un instant. Des manifestations dans toute la France pour une vraie loi climat. L'examen de ce projet de loi sera examiné demain à l'Assemblée. Coup de pression des manifestants sur les députés comme Martine, manifestante à Limoges.
Il y a eu des propositions qui ont été faites par les 150 citoyens. S'il s'agit d'édulcorer et d'enlever les trois quarts de ce qui portait, je veux dire, c'est pas la peine.
Dans ce journal également, une déclaration sur les réunions non mixtes d'Audrey Pulvar qui provoque une polémique et un documentaire événement sur la vie et la carrière de Tina Turner. Vos rendez-vous du 19h, la page sport avec au menu du football et les qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar. La France s'impose 2-0 face au Kazakhstan, le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison et on s'intéressera aux liens de plus en plus étroits entre sportifs de haut niveau et jeux vidéo. Notre coup d'œil sur l'agenda avec les temps forts de l'actualité à suivre la semaine prochaine. Et bien sûr, notre rendez-vous avec Sandrine Houdin, c'est mon actu. Et ce soir, le témoignage de Florence, une esthéticienne en colère contre le confinement. Son salon a fermé, pas les salons de coiffure. La météo pour demain, une journée bien printanière. Jean-Pierre Hameau à la fin de cette édition, à 19h30, les petits bateaux Noël Bréham.
Bonjour, je m'appelle Yasmine. Je voudrais savoir pourquoi les Arabes écrivent de droite à gauche.
Les petits six ans et demi. Les petits bateaux Noël Bréham à la fin de cette édition.
France Inter.
C'est devenu la préoccupation majeure dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus en progression constante. L'école et les cas de contamination qui se multiplient. Avec depuis ce week-end une situation alarmante, tout particulièrement au lycée Eugène Delacroix à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Les professeurs du lycée ont écrit vendredi à Emmanuel Macron et au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, pour demander le plus vite possible la fermeture de l'établissement depuis un an et le début de la pandémie dans ce lycée de 2400 élèves. Une vingtaine de lycéens ont perdu leur père ou leur mère ou un proche parent. Ce midi, le recteur de l'Académie de Créteil a annoncé qu'une campagne de tests massifs va avoir lieu dans le lycée. Mais il n'est pas question de fermer l'établissement. Reportage à Drancy aux abords du lycée, Marie Jiquel.
Retour de marché pour Alice et Yvette qui habitent juste à côté du lycée. Elles ont découvert la situation dramatique de l'établissement en lisant la lettre du professeur adressée au président et elles ne sont plus aussi sereines à l'idée de passer devant le lycée Eugène Delacroix, l'un des deux lycées publics de Drancy.
J'habite à côté, je vois que les jeunes ils ont leur masque. Bon, pas tous, mais la majorité ils ont leur masque. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? J'en sais rien. Surtout nous, les personnes âgées, on est les plus craintifs. Voilà, moi j'ai peur.
Amis est élève à Drancy et il l'admet, après un an de Covid, il n'est pas toujours simple de respecter toutes les restrictions.
Il y a des relâchements. Il y a de moins en moins de personnes qui respectent par exemple le port du masque sur le nez, le gel hydroalcoolique, il n'est pas souvent mis.
2000 élèves et 300 membres du personnel se croisent au lycée Eugène Delacroix, dont Mehdi, en terminale, qui confirme cette négligence.
Les classes, elles ne sont pas réparties, c'est-à-dire qu'on est 26 dans une classe, 26 dans une classe de 30 places. C'est-à-dire quand même, c'est un peu compliqué pour les examens, on est collés. J'ai peur pour mes parents, j'ai peur qu'ils soient malades. On espère pas l'attraper.
Alors, fermé ou pas le lycée, la décision divise. Pour le moment, les emplois du temps sont bouleversés, mais demain, le lycée de Mehdi sera ouvert.
La question, c'est est-ce que je vais y aller pour mes parents? C'est ça et je pense que non.
La semaine prochaine, un nouveau protocole sera mis en place. 22 classes fermeront et un dépistage massif sera organisé.
Marie Jiquel à Drancy, la règle donnée par l'Éducation nationale à partir de demain dans les 19 départements concernés par les mesures de freinage de l'épidémie. Les écoles fermeront si des élèves ou des enseignants sont testés ou ont été testés positifs ce week-end. L'autre grand sujet d'inquiétude, ce sont les services de réanimation surchargés qui n'arrivent pas à faire face à cette troisième vague de l'épidémie. 41 médecins, des directeurs médicaux de crise des hôpitaux de l'APHP lancent aujourd'hui une alerte. Nous allons être face à des choix déchirants. Nous serons contraints, disent-ils, de faire le tri des patients à sauver. Dans une tribune publiée dans le journal du dimanche, les médecins précisent qu'ils n'ont jamais connu une telle situation, même pendant les des pires attentats subis ces dernières années. Le professeur Frédéric Adnet, chef des urgences à l'hôpital Avicenne de Bobigny et directeur médical du SAMU de Saint-Saint-Denis.
Nous, on a lancé un cri d'alarme compte tenu de la saturation de nos capacités hospitalières pour accueillir et prendre en charge cette troisième vague. Notre tribune est là pour simplement donner, si vous voulez, l'information que l'hôpital n'en peut plus, l'hôpital est saturé et que si les courbes prévisionnelles de l'épidémie telles qu'on nous les a présentées se poursuivaient, l'hôpital était en grand danger et on serait obligé de faire un tri des patients, c'est-à-dire de choisir ceux qui vont en réanimation et ceux qui n'y vont pas. Et on ne voudrait pas en arriver là. Et pourquoi on emploie le terme de médecine de catastrophe ? Parce que la médecine de catastrophe correspond à une situation où les capacités hospitalières deviennent inférieures aux besoins de santé. On voulait vraiment informer la population que ce basculement d'une médecine habituelle vers une médecine de catastrophe va imposer effectivement des critères de tri.
Frédéric Adnet avec Bernard Thomasson et le nombre de patients Covid en réanimation a continué d'augmenter aujourd'hui selon les données publiées par Santé publique France. 4872 malades sont en réanimation contre 4791 hier. Le pic de la deuxième vague à l'automne est pratiquement atteint. Beaucoup de monde aujourd'hui dans les rues et de nombreuses manifestations dans toute la France. 110 000 personnes ont défilé dans plus de 180 villes pour demander une vraie loi climat alors que l'examen du projet de loi climat et résilience débute demain à l'Assemblée. À Paris, des milliers de personnes se sont retrouvées derrière une banderole. Stop au blabla, une vraie loi climat. Et à Limoges, la manifestation a rassemblé près d'un millier de personnes. Comme à Paris et partout en France, les manifestants souhaitent faire pression sur les députés afin qu'ils rehaussent le niveau de leurs ambitions sur le climat, Thomas Vinclair.
Des flics pour les plantes et pas pour le cacao.
Sur son vélo, Stéphane brandit sa pancarte.
J'ai écrit « La loi climat oublie la forêt, ça sent le sapin ». Je pense que c'est de la poudre aux yeux, c'est un discours de façade et que derrière, tout continue comme avant.
Un peu plus loin dans le cortège, on retrouve Martine. Elle a fait confiance à la Convention citoyenne, mais cette loi climat et résilience du gouvernement, cette retraitée n'en veut pas.
Il y a eu des propositions qui ont été faites par les 150 citoyens. Sauf que s'il s'agit de légiférer maintenant et d'édulcorer et d'enlever les trois quarts de ce qui portait, de ce qui faisait sens par rapport à ce projet de loi, je veux dire, c'est pas la peine.
Les manifestants demandent donc au gouvernement et aux députés de voter pour une vraie loi climat. Et pour Jérôme, ce type de mobilisation peut encore faire bouger les lignes.
On est en train de faire des dégâts assez importants avec la crise climatique. Si on veut que nos enfants puissent vivre dans un environnement vivable, on a intérêt à se mobiliser maintenant et à mettre un peu la pression sur les politiques parce que de leur côté, ils ont sûrement d'autres pressions mais ils avancent pas du tout assez vite par rapport à l'urgence climatique. Il faut quand même un petit peu de courage et on n'y est pas.
Et les discussions autour de cette loi climat débute dès demain à l'Assemblée nationale. 3 semaines de débats qui s'annoncent mouvementés car déjà 7000 amendements ont été déposés.
Thomas Vinclair de France Bleu Limousin. Barbara Pompili était invitée à la mi-journée d'Ali Badou dans Questions politiques sur France Inter. La ministre de la Transition écologique a défendu le projet de loi climat du gouvernement. Il va permettre des changements concrets.
Je peux répondre à ces personnes qui se mobilisent. On s'en occupe. Justement. Et cette loi-là, elle porte un certain nombre de mesures qui sont des mesures qui vont beaucoup plus loin que ce qui a jamais existé et qui surtout vont s'appliquer dans la vie quotidienne. Le changement de dimension, on va le voir dans tous les aspects de notre vie. On va le voir à l'école avec des enseignements qui vont être renforcés. On va le voir dans les logements. On va le voir dans nos transports. C'est-à-dire du covoiturage, c'est aider les gens à changer leur voiture, c'est développer les transports en commun, c'est développer les parkings relais, c'est développer le vélo. Tout ça, ce sont des mesures concrètes qui vont être mises en place. Je peux vous dire que ça, c'est ambitieux et que c'est pas si simple à mettre en place.
Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique dans Questions politiques. La droite bondit, la France insoumise approuve. Une déclaration d'Audrey Pulvar provoque une polémique. La candidate PS pour les régionales en Ile-de-France a estimé ce week-end que l'on pouvait demander aux Blancs de se taire lors d'une réunion non mixte. Une personne blanche qui assisterait à une réunion non mixte pourrait rester spectateur silencieux, a expliqué Audrey Pulvar. Ces déclarations interviennent une semaine après une autre polémique autour de l'UNEF, dont la présidente Mélanie Luce avait défendu l'organisation de réunions non mixtes. Les propos d'Audrey Pulvar ont provoqué des commentaires indignés à droite, à l'extrême droite et jusque dans la majorité présidentielle. À gauche, c'est un nouvel épisode de ce débat difficile à trancher, Yael Gauze.
C'est Manuel Valls qui doit boire du petit lait avec sa théorie des gauches dites irréconciliables. Depuis 10 jours, la cacophonie est totale. et chacun se renvoie à la figure des leçons d'universalisme. Spectaculaire grand écart entre Anne Hidalgo, qui juge très dangereuses les réunions non mixtes, et sa principale alliée et candidate en Ile-de-France, Audrey Pulvar, pour qui ces groupes de parole peuvent faire avancer la lutte contre les discriminations, comme les féministes qui les ont pratiquées dans les années 70. Pour ou contre l'UNEF, lundi, 250 ex-dirigeants du syndicat rédigent une tribune en soutien. Le lendemain, le PS, autrefois grand frère de l'UNEF, condamne ces dérives. L'intrusion, vendredi, de militants d'extrême droite dans le conseil régional d'Occitanie achève d'échauffer les esprits à gauche. Dans un tweet, la présidente de région, Carole Delga, critique l'UNEF, polémique relancée. Jean-Luc Mélenchon règle ses comptes. Les socialistes seraient devenus des chasseurs d'islamo-gauchistes. Et les Verts dans tout ça, en soutien d'Audrey Pulvar, être universaliste ne sert à rien si on ne voit plus les discriminations, expliquent les écolos, attaqués à leur tour, y compris par des socialistes, pour la subvention accordée à la construction d'une mosquée à Strasbourg. Vous me suivez ? Mauvais départ, en tout cas, à un an de la présidentielle, pour ceux qui espèrent encore une candidature unique à gauche.
Yael Gauze, merci. À l'étranger, en Indonésie, un attentat suicide a visé ce matin la cathédrale de Makassar dans l'est du pays après la messe des rameaux. Au moins 20 personnes ont été blessées. Ce soir, les autorités confirment qu'il s'agissait bien d'une attaque suicide. Le kamikaze était membre d'un réseau proche du groupe État islamique, Julie Pietri.
Deux personnes circulaient à moto au niveau de l'une des entrées de l'église quand l'explosion puissante a retenti, a expliqué le porte-parole de la police indonésienne. La moto est détruite, les assaillants se sont fait exploser alors qu'ils tentaient de rentrer dans la cathédrale. Un agent de sécurité les en aurait empêchés. À ce moment-là, c'est le début de la Semaine Sainte. La messe des rameaux vient de prendre fin. Les gens sont en train de rentrer progressivement chez eux. Qui sont les auteurs de cet attentat suicide ? Toujours selon la police, ce soir, l'un des deux kamikazes fait partie d'un mouvement radical, soutien du groupe État islamique, qui était déjà derrière les trois attaques à la bombe contre des églises du pays en 2018. Une famille entière, dont des fillettes de 9 et 12 ans, avait alors déclencher les explosifs.
Julie Pietri, on termine avec un documentaire événement diffusé pour la première fois la nuit dernière sur HBO. Tina, un retour sur la vie et la carrière incroyable de Tina Turner. De nombreuses images d'archives, des extraits de concerts, des interviews exclusives après un film hollywoodien dans les années 90, une comédie musicale à Broadway en 2019. À 81 ans, la rockstar est cette fois au cœur d'un documentaire salué par la critique américaine, Loïc Piala.
Dans Tina, la star redit beaucoup de choses qu'elle a déjà racontées, mais elle semble les dire pour la dernière fois. Le documentaire a des airs d'adieu. Comment tire-t-on doucement sa révérence ? Demande celle qui est née, Anna May Bullock.
Je viens des champs de coton, moi. Il a fallu que j'apprenne tout ce qu'on ne m'avait pas appris.
Malgré les tubes, malgré son énergie folle, malgré les stades pleins, la vie et la carrière de Tina Turner sont restées définies par sa relation toxique avec Ike Turner, des années de sévices sur lesquelles les journalistes n'ont jamais cessé de l'interroger, l'obligeant à revivre encore et encore ses traumatismes. À 81 ans, remariée et installée en Suisse, Tina Turner en a assez de ressasser de vieilles histoires. Avec le temps, le pardon l'emporte. On pardonne parce que ce souvenir ne fait de mal qu'à soi-même, dit-elle, dans les dernières minutes. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Loïc Piala, Tina Turner avec en prime un extrait de Simply the Best. (rire) 19h14 sur France Inter, la page sport de cette édition. Bonsoir Stéphanie Mora.
Bonsoir.
Et les Bleus ont évité une mauvaise glissade au Kazakhstan.
Oui, entre les routes gelées et pelouses synthétiques, l'équipe de France de foot s'est sortie du piège kazakhstanais. Victoire 2-0. De quoi effacer le nul contre l'Ukraine mercredi dernier et se remettre en bonne position pour se qualifier pour le Mondial 2022. Mais Alexandre Vaux, le gardien du Kazakhstan, a fait le match de sa vie face à Mbappé.
Le meilleur joueur du match, Stéphanie, le gardien de but du Kazakhstan, a gagné ses trois duels face à Kylian Mbappé. Il a même arrêté son pénalty. Retenez ce nom, Alexander Mokhin, étonnant gardien inconnu de 39 ans, fébrile en première mi-temps, mais qui a réussi 6 parades décisives au retour des vestiaires, de quoi dégoûter les stars françaises. Seul Ousmane Dembélé, l'attaquant du FC Barcelone, a réussi à le tromper en ouvrant le score à la 19e minute de jeu d'une belle frappe croisée, signant ainsi d'ailleurs son retour en bleu plus de 2 ans après sa dernière convocation. Mais le but contre son camp du défenseur kazakhstanais juste avant la mi-temps et ce petit score face à la 122e nation mondiale ne sont pas de nature à nous rassurer sur l'état de forme des champions du monde, alors que le périple, lui, se poursuit. Stéphanie, après une dernière nuit à Nur-Sultan, les Bleus s'envoleront demain pour Sarajevo avant un troisième et ultime match en 8 jours, mercredi soir, face à la Bosnie.
Alexandre Voix, Nur-Sultan. Alors, si l'équipe de France ne nous a pas emballés, c'est normal. Ukraine, Kazakhstan, Bosnie, ce ne sont pas toujours les rencontres les plus faciles à aborder dans des phases éliminatoires. Bichente Lissarazu, notre consultant foot Radio France, a bien connu ces affiches galères.
Évidemment, aller jouer au Kazakhstan avec un déplacement de tempête dans des conditions un peu difficiles de préparation, une surface, ils n'ont pas l'habitude de jouer sur du synthétique, c'est pas une surface, on a d'autres appuis, le ballon rebondit différemment, c'est pas un adversaire prestigieux, il faut aller chercher, puiser, c'est pas les matchs les plus rigolos à faire, il y a la Ligue des Champions qui arrive, c'est beaucoup plus clinquant, et faire l'Euro, ça sera beaucoup plus clinquant de jouer contre le Portugal ou de jouer contre l'Allemagne, hein, sur le premier match de groupe, mais il faut aller gagner, et j'ai joué des matchs comme ça, et c'est vrai que c'est pas facile d'aller puiser l'énergie, de puiser la motivation, mais ils l'ont bien fait.
Bichente Lissarazu avec Jérôme Cadet. Et en ce moment, les éliminatoires pour la Coupe du Monde de Qatar se poursuivent. L'Espagne joue en Géorgie, elle est menée 1-0, et l'Angleterre en Albanie, qui mène sur le même score ce soir, Roumanie-Allemagne.
Et Lewis Hamilton, Stéphanie, qui remporte le premier Grand Prix de la saison de Formule 1.
La saison, oui, qui redémarrait cet après-midi à Bahreïn. Une course très disputée entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Et au final, le septuple champion du monde s'est imposé. Une victoire acquise au pilotage plus que sur les capacités de la Mercedes, hein, Guillaume Batin.
Non, et aux 3/4 de la course, Lewis Hamilton avait 20 secondes d'avance sur Max Verstappen. C'est énorme en Formule 1. La Red Bull Honda grappillait plus d'une seconde au tour sur la Mercedes. Et ce qui devait arriver arriva. Verstappen double Hamilton à la seconde tentative, mais le septuple champion du monde repasse devant très vite, malgré une voiture moins rapide, le talent à l'état pur, et pourtant tout a été fait pour mettre un terme à la domination des Mercedes. Le règlement a changé, les voitures sont globalement plus lourdes, plus lentes, moins collées au sol, les budgets plafonnés, alors que la marque allemande n'avait quasiment aucune limite financière jusque-là, de quoi rebattre les cartes de la hiérarchie mondiale, sauf quand on a sur la grille de départ le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1.
Et après l'ouverture de la saison de F1, celle de MotoGP en ce moment même, le Grand Prix du Qatar commence avec Fabio Quartararo sur sa Yamaha qui était en deuxième position sur la grille de départ. Et un autre Français sera à suivre cette saison, le Niçois Johan Zarco sur Ducati Pramac.
D'autres deux roues, le cyclisme avec deux courses aujourd'hui.
Oui, dans les Flandres, Wout van Aert a gagné à la maison la classique Gent-Wevelgem cet après-midi. Le Belge de la Jumbo-Visma a profité du vent, d'un coup de bordure pour s'échapper avec un groupe de coureurs et s'adjuger le sprint face à l'Italien Nizzolo. Arnaud Démare, la meilleure chance française, n'était pas dans le coup. Le premier Français, Anthony Turgis, termine 9e. Et puis le Tour de Catalogne s'est terminé également sur la victoire du Britannique Adam Yates. Le cyclisme anglais, justement, au cœur d'une enquête, l'agence mondiale antidopage lance des investigations sur son homologue anglaise. L'agence de lutte contre le dopage du Royaume-Uni, l'UKAID, est soupçonnée d'avoir fermé les yeux sur la façon dont les contrôles ont été menés par la fédération cycliste anglaise. Et ce, Maxence Peignet, au moment où les coureurs anglais dominaient la discipline sur route et sur piste.
Les faits remontent à 2011, mais ils ne refont surface qu'aujourd'hui dans les pages du journal Le Daily Mail. À l'époque, le Royaume-Uni se prépare à accueillir les Jeux Olympiques de Londres et des tests sont réalisés sur les coureurs de l'équipe nationale de cyclisme. Lorsque l'un d'entre eux s'avère anormal, la fédération décide de confier l'échantillon à un laboratoire privé. Pourtant, les règles internationales stipulent que c'était bien à l'agence britannique antidopage de se saisir de l'enquête. De quoi inquiéter les autorités de l'agence mondiale qui ont rouvert leurs archives pour identifier de potentielles irrégularités. C'est un nouveau coup dur pour le cyclisme britannique qui connaissait déjà un mois de mars difficile. Il y a tout juste 2 semaines, un ancien docteur de la fédération était reconnu coupable d'avoir commandé de la testostérone à des fins de dopage en 2011. Ces affaires inquiètent d'autant plus que quelques mois plus tard, l'équipe nationale raflait 12 médailles au JO, dont 8 en or, son plus grand succès en plus d'un siècle. Londres, Maxence Peignet, France Inter.
La saison de ski est définitivement terminée. La page blanche s'est refermée sur un double titre de champion de France pour Victor Muffagendé, titré en slalom hier et en super géant aujourd'hui. Les championnats se déroulaient au G.
On va vous amener maintenant dans les nuits sans sommeil des sportifs de haut niveau. Cette semaine, l'éditeur de jeux de survie Fortnite, très prisé des adolescents et des jeunes adultes, a annoncé avoir signé un partenariat avec Neymar. Les 350 millions de joueurs de Fortnite auront désormais la possibilité de choisir l'avatar de la star brésilienne du PSG pour leur partie. Un tel partenariat est certes inédit, mais les liens entre les deux domaines, sport de haut niveau et jeux vidéo, sont de plus en plus étroits. C'est le long format de ce soir. Rima Sarango.
Fortnite, c'est ce qu'on appelle un battle royale, une confrontation entre plusieurs joueurs qui s'entretuent dans une arène. Rien à voir donc avec le foot. Et pourtant, tous les utilisateurs connaissent Neymar sans forcément en être fan. Alors Ulysse, 16 ans, est séduit par ce partenariat.
Ça doit être un avantage pour Fortnite. Et j'imagine que pas mal de personnes seraient prêtes à dépenser de l'argent pour acheter ce personnage. Bah, ça passe par une monnaie virtuelle qui s'appelle les V-Bucks. Et ça peut dépendre entre 10 euros, 20 euros, 30 euros, ça dépend.
Multiplié par 350 millions d'acheteurs potentiels, c'est un sacré pactole, d'où l'intérêt pour l'éditeur de ce type de partenariat. Mais ce n'est pas le seul, explique Julien Pillot, enseignant-chercheur spécialiste de l'industrie du jeu vidéo.
Il y a un deuxième objectif de communication et d'expansion de l'aura du jeu vers un nouveau public. Et effectivement, un joueur comme Neymar, il a une notoriété qui est très forte en Europe, mais aussi et surtout en Amérique du Sud. Tous les aspirants joueurs potentiels de Fortnite en Amérique du Sud, et ils sont nombreux, ça peut leur donner l'envie, effectivement, de télécharger le jeu, pourquoi pas d'y rester fidèle.
Et cela va bien au-delà de Neymar. Antoine Griezmann, qui s'était inspiré de Fortnite justement pour l'une de ses célébrations, pourrait bientôt être courtisé à son tour. Des sportifs d'autant plus faciles à convaincre qu'ils sont eux-mêmes joueurs. Les parties de cartes ou de ping-pong entre coéquipiers ont été remplacées par les jeux vidéo. Le coureur cycliste David Gaudu, 24 ans, est en plein dans cette génération qui prend la manette entre chaque entraînement.
Ça me permet de penser à autre chose qu'au vélo, en fait, de faire autre chose que du vélo. Et ça peut être aussi quelque chose de très, très amusant. Et ça permet de relâcher une partie de la pression dans les jeux vidéo, je dirais.
Mais David Gaudu s'est fixé une règle. Il n'emmène jamais sa console en compétition car il sait que le temps de détente vire parfois à l'excès. Au centre de formation du Stade Brestois, qui accueille 60 jeunes footballeurs de 15 à 20 ans, le directeur Nicolas Marié a dû limiter l'accès à la PlayStation le mercredi après-midi et le week-end.
On a régulièrement des rappels parce qu'on a conscience que les jeux en réseau, chez certains, a pris une place trop importante. Quand on est en entraînement le matin, quand on est sportif de haut niveau, ben, il faut avoir un corps reposé. Et quand le sommeil est endommagé par des heures excessives sur les écrans, on perd en qualité de travail le lendemain.
Sauf que ça se corse quand les joueurs passent professionnels, de la même façon qu'il était impossible d'interdire à Ronaldinho d'enflammer les boîtes de nuit parisiennes, il est impossible d'exiger de Neymar qu'il range sa manette avant minuit.
Sportif de haut niveau, jeux vidéo, Emma Sarango.
Le journal de 19h, Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine avec notre agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient. Vous l'avez compris, on en a parlé en début de journal. La loi climat arrive demain à l'Assemblée et après les manifestants, les amendements, 7000 amendements ont été déposés. Temps fort également demain lundi sur l'agenda judiciaire. L'heure du jugement dans le procès du médiateur devant le tribunal correctionnel de Paris. Épilogue d'un procès fleuve des laboratoires Servier et de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Autre procès sans les accusés, procès par défaut aux assises du bombardement de Bouaquet, bombardement meurtrier de la base française en Côte d'Ivoire. Un ex-mercenaire bélarusse et deux officiers ivoiriens sont accusés d'avoir tué 9 militaires français en 2004. On passe à mardi avec, après l'Assemblée nationale, la loi séparatisme qui a rendez-vous au Sénat de ce projet de loi confortant le respect des principes de la République. La question de l'école à la maison devrait animer les débats au Sénat. À noter également sur l'agenda, mercredi, c'est l'heure de la retraite pour deux vétérans du dessin de presse. Plantu, qui pose ses crayons au Monde, et Willem à Libération, qui cède sa place à Coco, qui devient la première dessinatrice attitrée d'un grand quotidien en France. Une semaine importante aussi pour les chrétiens avec Pâques et vendredi, le chemin de croix. Il sera célébré par le pape François, place Saint-Pierre, comme l'an dernier, Pâques en mode confiné. Cette année encore, Antonino Gallofaro.
Le pape seul, place Saint-Pierre et sous la pluie, qui prie pour la fin de la pandémie. En pensant à Pâques en temps de coronavirus, eh bien, cette image de l'an dernier revient à l'esprit. Cette année à nouveau, la place immense sera encore déserte. Seuls quelques fidèles seront admis au sein de la basilique Saint-Pierre pour les célébrations de Pâques avec François. Jeudi saint, par contre, le calendrier du Vatican indique que la messe de la scène du Seigneur sera présidée par Giovanni Battistare, le doyen du collège des cardinaux. Le souverain pontife pourrait donc choisir, comme il le fait toujours, une petite paroisse romaine de périphérie où célébrer lui aussi une messe auprès des plus pauvres et des exclus. Par le passé, il s'est par exemple rendu dans une prison où il avait lui-même lavé les pieds des prisonniers. Enfin, le coronavirus contraint le chemin de croix à l'intérieur de la place Saint-Pierre quand, d'habitude, il a lieu au Colisée devant une foule immense. Et là aussi, on se rappelle de l'an dernier, ce chemin de croix illuminé par des bougies sur une place désertée. Rome, Antonino Gallofaro, France Inter.
Et on terminera la semaine avec du football et un match capital pour le titre en Ligue 1. Le PSG accueille samedi Lille, son principal concurrent. Voilà pour l'agenda. Et la semaine qui vient s'annonce décisive concernant un éventuel durcissement des mesures de confinement. Un cran de plus dans les restrictions, même si certaines mesures concernant la fermeture des commerces dits non essentiels ne passent décidément pas auprès des commerçants, notamment dans l'habillement, le textile, mais également pour les instituts de soins de beauté. Ce soir, Florence Thémine, une esthéticienne de 52 ans, pousse elle aussi un cri de colère. Elle se sent victime d'une injustice. Les coiffeurs sont ouverts, pas les instituts de beauté. Florence Thémine a rangé à contre-cœur ses pinces à épiler. Florence Thémine, l'esthéticienne, ne décolère pas au micro de Sandrine Audin.
Moi, franchement, je ne comprends rien. Qu'on vienne m'expliquer la différence entre un cheveu et un poil. Je ne vois pas la différence. J'ai un coiffeur à côté de chez moi. Ils sont ouverts tous les jours. Ils ont le droit d'ouvrir. Et les centres esthétiques n'ont pas le droit d'ouvrir. Et j'adore ma copine coiffeuse qui est à côté. Mais mon code d'activité, c'est le même. Pourquoi moi, je n'ai pas le droit d'enlever un poil de sourcil et pourquoi elle a le droit de couper un poil de cheveux? On fait la même chose. Les coiffeurs, ils coupent les sourcils aussi. Il y a des coiffeurs qui font les soins esthétiques. Moi, ma fille, hier, elle est allée se faire une épilation des jambes chez un coiffeur. Donc, on est dans un monde de tarés. Je ne comprends pas cette segmentation aujourd'hui. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui n'est pas essentiel? Des poils qui sortent du nez, c'est encore pire que des cheveux qui ont poussé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des lobbies qui sont plus forts que d'autres.
C'est plutôt l'incohérence que la fermeture.
Voilà, c'est complètement incohérent. On a l'impression d'être dans un monde de dingue. C'est-à-dire qu'un film de science-fiction n'aurait pas imaginé mieux. Quand on laisse les lycées ouverts avec des milliers d'élèves qui font des fêtes ensemble, moi j'ai des ados, je sais de quoi je parle, et qu'après on vient me dire vous devez fermer, je trouve que c'est du foutage de gueule. Ok, on confine, mais on confine tout le monde, on ferme tout. On fait des vaccinodromes, on vaccine tout le monde. Mais là, ça fait un an que ça dure. C'est un vrai foutage de gueule.
Conclusion.
En faisant ça, on a mis en marche l'économie souterraine. Parce que c'est marche ou crève. Aujourd'hui, les salariés, elles ont quand même le chômage partiel. Mais il n'empêche, elles doivent donner à manger à leurs gamins. Eh bien, elles se déplacent, elles font du domicile. Elles ont raison, elles doivent bouffer à la fin du mois. Vous croyez que c'est l'État qui va leur donner à bouffer à la fin du mois? Mais non. Tout le monde sauf sa peau. Tout se fait mais en off. J'ai aussi des gens que je connais qui ont des nail bars qui m'ont dit « Mais Florence, moi j'ai un poste de coiffure. » Ah bah oui. T'emmènes un sèche-cheveux, une brosse. Non mais si on veut aller dans l'absurde. Là, regardez Sandrine Lily, là. J'ai 5 livides. Je les mets en position assise. J'ai le droit de faire des chignons. Non, j'ai pas le droit de faire des chignons. J'ai envie de faire des chignons. Non mais c'est que des astuces comme ça. Maintenant, pour dîner dans un restaurant, il faut louer une chambre d'hôtel si l'hôtel il fait récent. Non, c'est que des astuces comme ça. Moi, je suis dirigeante de société, je n'ai pas le droit de le faire, je ne le fais pas. Mais Sandrine, mais les salariés qu'on empêche de travailler, vous croyez qu'ils ne travaillent pas? Mais vous rêvez. Demain, si vous vous faites les ongles, il y a des gens qui sont ouverts. C'est souterrain et c'est complètement hallucinant.
Florence Thémine, esthéticienne, c'est mon actu, Sandrine Oudin. Au générique de cette édition, Benjamin Troncin et Gilles Gaillard en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal avec Lionel Thompson à la rédaction en chef, assisté formidablement par Hélène Barbet et Julien Loquet. Merci à l'équipe et merci à vous d'avoir écouté ce journal. Le temps pour demain.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Jean-Pierre Hameau.
Demain, nous allons retrouver des conditions anticycloniques sur l'ensemble de notre pays. Le soleil va s'imposer partout. Prévoyez quelques bancs de brume ou de brouillard au lever du jour, en particulier du Sud-Bretagne au département de la Sarthe, mais aussi du côté du Val-de-Saône. Dans tous les cas, ces phénomènes de basse couche se dissiperont très rapidement. Le vent d'OTAN va souffler dans son domaine jusqu'à 70 km par heure. Côté température, les minimales en fin de nuit seront généralement comprises entre 1 et 6 degrés. De faibles gelées se produiront encore dans le nord-est et le centre-est. Les maximales, quant à elles, vont encore monter d'un cran en évoluant de 18 à 25 degrés. On attend 18 à Cherbourg, 20 à Lille, Dijon et Marseille, 21 à Nancy. Prévoyez 22 dans la capitale, 23 à Lyon, 24 à Bordeaux et 25 à Biarritz. Cette douceur va s'intensifier mardi et mercredi avec à la clé de nouveaux records de température maximale.
Jean-Pierre Hameau de Météo France.